RFI, 23h à Paris, 21h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, la République démocratique du Congo et les Rwanda se donnent une semaine pour parvenir à un projet d'accord de paix. Dans une déclaration, les deux pays se sont engagés à respecter leur souveraineté respective. On fait le point en début de journal. La Crimée restera avec la Russie. Les mots de Donald Trump dans un entretien accordé au magazine Time. Son émissaire Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine ce vendredi. 3 heures de discussion qualifiées de constructives par le Kremlin. Dans ce journal également, plus de 250 000 fidèles ont rendu hommage au pape François dans la basilique Saint-Pierre depuis mercredi. Son cercueil est maintenant scellé avant les funérailles prévues samedi matin. Et puis en Chine, les énergies renouvelables ont le vent en poupe. Pékin annonce qu'elle dépasse pour la première fois les énergies thermiques. Mais la Chine reste très dépendante du charbon. Vous avez les titres, bienvenue. Une déclaration d'intention signée par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cela s'est passé ce mercredi à Washington. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays étaient réunis autour du secrétaire d'État américain Marco Rubio. On retrouve notre correspondant à Washington, Guillaume Nodin. Bonsoir.
Bonsoir.
Après des mois de combats dans l'est de la RDC, les deux pays s'engagent à dialoguer et à rechercher un accord de paix.
Oui, et il se fixe même une date limite pour y parvenir. Le 2 mai, cette déclaration repose sur un engagement, celui de privilégier la voie diplomatique plutôt que la force armée pour résoudre leurs conflits. Elle repose aussi sur des principes, l'intégrité territoriale et la reconnaissance des frontières de chacun. Alors que le mouvement AFC-M23, soutenu par le Rwanda et qui a pris ces derniers mois de larges pans du territoire de la RDC, dont les villes de Goma et Bukavu, les signataires reconnaissent aussi l'intérêt de limiter la prolifération des groupes armés non étatiques. Ils s'engagent à faciliter le retour volontaire des réfugiés et des milliers de déplacés internes. Ils reconnaissent également le rôle de la MONUSCO. Les discussions auront lieu dans le cadre régional issu des processus de Nairobi et de Luanda et soutenu par l'Union africaine pour résoudre leurs désaccords qui sont nombreux. Et même si des discussions ont déjà eu lieu au Qatar, le Rwanda et la RDC se réuniront au niveau ministériel à Washington. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio souhaite ainsi mettre en avant l'engagement de Donald Trump pour trouver des accords de paix partout dans le monde, ainsi que sa volonté de s'engager pour la prospérité dans la région en facilitant les investissements occidentaux et en particulier américains pour exploiter les grandes richesses minérales de l'Est de la RDC.
Merci Guillaume Nodin en direct de Washington. Au Proche-Orient, une délégation du Hamas va rencontrer les médiateurs égyptiens samedi au Caire. En attendant, selon la défense civile palestinienne, au moins 40 personnes ont été tuées ce vendredi dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes. Et ce tandis que le programme alimentaire mondial de l'ONU annonce avoir épuisé ses stocks de nourriture. Conséquence du blocage de l'aide humanitaire aux frontières par Israël depuis près de 2 mois. L'ONU qui a été interpellée ce vendredi par le chef de la diplomatie syrienne, Assad al-Shebaini, appelle à faire pression pour le retrait d'Israël en Syrie. Après la chute du régime de Bachar al-Assad, l'État hébreu a déployé des troupes dans une zone tampon contrôlée par les Nations Unies. Une demande, tandis qu'au moins 11 civils alaouites, minorité dont est issu l'ex-homme d'État, ont été tués ces dernières 24 heures. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cela s'est passé lors de perquisitions des forces de sécurité syriennes à Homs, dans le centre de la Syrie. 3 heures de discussion qualifiées de constructives par Vladimir Poutine. Le chef d'État russe a rencontré l'émissaire américain Steve Witkoff ce vendredi pour la 4e fois. À l'approche des 100 jours au pouvoir de Donald Trump, les contacts diplomatiques s'intensifient entre Moscou et Washington. Mais la journée marquée par le 2e assassinat en 2 mois d'un général russe dans le Grand Moscou s'est achevée sans avancée officielle tangible. Les précisions d'Anissa Al-Jabri à Moscou.
Les deux premières rencontres entre l'envoyé spécial de Donald Trump et le chef de l'État russe n'avaient donné lieu à aucune communication. La troisième à Saint-Pétersbourg avait duré 4h30 et donné lieu cette fois à quelques images. Seul signe visible du réchauffement continu entre Moscou et Washington. Cette fois, le rendez-vous a eu lieu au Kremlin et de brèves images en début d'après-midi ont montré Steve Witkoff et Vladimir Poutine assis à une table de négociation. Au même moment, le magazine Time rendait public une interview de Donald Trump où il multipliait encore les déclarations en ligne avec les positions du Kremlin, insistant notamment sur le fait qu'à ses yeux, je cite, « la Russie gardera la Crimée », allant même jusqu'à dire « et Zelensky comprend ça ». Aucune avancée visible concrète à l'issue des 3 heures d'échange à Moscou. Pourtant, le sherpa diplomatique du Kremlin a mentionné une seule nouveauté. Vladimir Poutine et Steve Witkoff ont évoqué de possibles négociations directes entre Moscou et Kiev, sans jamais nommer avec qui, question de taille, tant le pouvoir russe n'a jamais cessé de contester la légitimité de Volodymyr Zelensky. Anicel Jabri, Moscou, RFI.
Et de son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé que son pays était prêt à un accord pour que les combats cessent. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des frappes russes ont fait 12 morts à Kiev. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs assuré que l'un des missiles tirés sur la capitale avait été produit en Corée du Nord. Le président ukrainien, qui a annoncé qu'il n'était pas certain d'avoir le temps de se rendre aux funérailles du pape samedi matin. En attendant, son cercueil est maintenant scellé. Depuis mercredi, plus de 250 000 fidèles ont pu lui rendre hommage dans la basilique Saint-Pierre. Nathalie Bécard, sœur Xavier, qui a été nommée sous-secrétaire du synode par le pape François, a confié être très émue par ces foules qui se recueillent avant les funérailles. On l'écoute.
Je suis vraiment touchée par ce qu'est l'église et au-delà de l'église. Vous voyez, hier quand j'ai prié, il y avait un imam qui est venu se recueillir devant le cercueil du pape François, qui a dit ses prières. Il y a plein de non-croyants qui viennent. Donc en fait, c'est ce message d'unité. Et en fait, c'est ce que le pape François n'a cessé de porter du début à la fin. C'est ça le cœur de la mission de l'église, c'est d'être sur cette terre le témoin d'un chemin d'unité possible au-delà de toutes les différences. Et ben voilà, le fait que là, le monde entier se retrouve bien au-delà de l'église catholique, ça nous dit qu'on est fait pour vivre ensemble sur cette planète comme une famille humaine, au-delà de toutes les différences, les diversités culturelles. Voilà. Et dans ce contexte géopolitique d'aujourd'hui, qui est quand même très compliqué, grave et rempli de conflits et de divisions, on porte tous ce désir profond d'une vie ensemble possible. Et c'est ce que le pape François a manifesté, parce que c'est le cœur de la mission de l'Église et de la vocation de l'Église. Et dans un moment comme ça, ça se rend visible. Voilà. Et c'est ça qui me touche, parce que c'est le mystère de Dieu, qui est le mystère de l'Église, de nous inviter à être ensemble une famille humaine qui trouve des chemins pour vivre ensemble dans la paix.
Des propos recueillis par Véronique Guémard. Direction la Chine, Pékin annonce que les énergies vertes dépassent pour la première fois celles des installations thermiques. Mais la production du charbon chinois continue d'augmenter ces dernières années. Alors Pauline Glaise, que signifie réellement cette annonce ?
Que la capacité en énergie éolienne et solaire dépasse les capacités des centrales thermiques était inéluctable aux yeux de Laurie Milivirta, spécialiste du mix énergétique chinois au CREA. Depuis une paire d'années, la Chine a ajouté plus de 300 gigawatts de capacité par an, 10 fois plus que les États-Unis l'an dernier, et ce n'est pas fini.
Nous sommes dans la dernière année du 14e plan quinquennal. La dernière année, c'est toujours une année où beaucoup de projets prévus pour la période sont terminés et raccordés au réseau. Nous nous attendons donc à des ajouts d'énergie propre encore plus importants qu'au cours des 2 dernières années.
En attendant, Laurie Milivirta nuance la portée du nouveau cap qui vient d'être franchi.
C'est largement symbolique, parce que ce qui compte vraiment, c'est la quantité d'électricité produite. Et la capacité solaire installée aboutit à une moindre quantité de gigawatt-heure que les installations au charbon ne le font habituellement. Donc le charbon a encore représenté près de 60% de la production d'électricité l'an dernier, quand les secteurs éoliens et solaires sont à 18%.
Et puis ce n'est pas parce que la Chine développe ses parcs solaires et éoliens à vitesse grand V que cette énergie vient remplacer le charbon. Pékin a lancé l'an dernier la construction de centrales au charbon d'une capacité de plus de 90 gigawatts.
Les précisions de Pauline Glaise du service environnement d'RFI. En France, l'adolescente de 15 ans décédée ce jeudi a été frappée de 57 coups de couteau. Une attaque commise par un élève au collège lycée Notre-Dame de Toutzette de Nantes qui a fait également 3 blessés. Le parquet a décrit un agresseur extrêmement solitaire et fasciné par Hitler. Mais aucun mobile ne peut être évoqué de façon certaine, annonce ce vendredi du procureur Antoine Leroy. Et puis avant de fermer ce journal, quelques mots de football. La série d'invincibilité du Paris Saint-Germain s'arrête À 4 jours de son choc contre Arsenal, les Parisiens ont perdu 3-1 contre Nice. Les Niçois prennent provisoirement la 4e place du championnat à 1 point de la 2e place. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. RFI, bientôt 23h10 à Paris, 21h10 en temps universel. Bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.